Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour, c'est Justine Hénin. Bienvenue dans Échange, le podcast du tennis.
La première fois que je l'ai vue, j'avais 9 ans et elle 13. C'était sur les bords du lac d'Annecy l'été. Elle jouait les Petits Princes, une compétition internationale pour les moins de 14 ans. Elle s'entraînait avec Olivier Rocus, petit et frêle comme elle. Elle avait déjà son sublime revers à une main et je me demandais comment elle faisait. Dans cet épisode, j'ai voulu qu'on parle de l'immensité de sa carrière, mais pas que. Merci à Kurtz d'avoir rendu possible cette rencontre. Ah oui, je vous préviens, je ne l'ai pas tutoyé. Impressionné sûrement. Je m'appelle Antoine Beneteau, bienvenue dans Échange. Bonjour Justine.
Bonjour.
Merci de me recevoir ici, dans la campagne bruxelloise, dans votre club et votre académie. À quel point ce lieu est important pour vous ?
Ouais, c'est ma deuxième maison, hein. J'y passe une grande partie de mon temps, de mon énergie aussi. Ça fait 14 ans maintenant que j'ai racheté ce club, qu'on l'a rénové, qu'on y a créé l'Académie Justine Hénin. Les premières années, j'étais toujours en pleine carrière, donc c'est vrai que j'étais moins impliquée, mais maintenant, depuis 9 ans, je dirais, je suis vraiment très très impliquée dans la direction, dans la gestion sportive, ce qui est important pour moi, c'est surtout d'arriver à faire passer mes valeurs. Voilà, c'est tout en s'adaptant, parce que c'est une académie qui va vraiment du loisir à l'ultra compétition et voilà, aux jeunes qui rêvent peut-être un jour de devenir professionnels. Mais donc, il faut aussi s'adapter. Moi, ça a été une carrière de tennis de haut niveau. Alors, j'ai aussi franchi plein d'étapes et la base du tennis, cette base loisir est tellement importante aussi, parce que c'est cette base qui nous permet voilà, nous, les professionnels, ceux qui ont pu en faire leur métier, c'est cette base qui nous permet de faire ça. Et ça, pour moi, ça a toujours été très important. J'ai grandi dans les clubs et je trouve ça important de rester aussi à ce contact-là, quoi. C'est-à-dire au contact des gens, tous âges, tous niveaux, voilà, qui ont la passion du jeu et du tennis. Et c'est pour ça que j'ai voulu aussi créer une académie dans un club, en restant dans quelque chose d'accessible, avec une proximité. Et voilà, tout simplement, ma motivation, c'est essayer de transmettre, quoi, l'expérience que j'ai pu acquérir, apprendre de mes coachs, apprendre des jeunes. Je suis passionnée par la jeunesse et l'éducation. J'apprends beaucoup à leur contact aujourd'hui. J'ai moi-même des enfants qui sont plutôt petits, mais ouais, c'est une aventure, quoi. Pouvoir les guider de toute façon à leur projet sportif, quel qu'il soit, parce que tous ne viendront pas des champions. Il faut être lucide, et c'est ça que j'aime, quoi. C'est déterminer aussi le projet de l'enfant et essayer de l'accompagner, voilà, tout au long de son parcours.
On sent dans ce que vous dites l'importance de la notion du temps. Vous parliez du tennis loisir. C'est à ce moment-là où les passions naissent, mm-hmm. au moment de l'enfance. C'était comment le temps de l'enfance pour Justine Hénin ?
Ah, c'était énormément d'heures passées sur les cours de tennis. Beaucoup de choses vont revenir autour du tennis dans mon enfance et du sport de manière générale, parce que c'est vrai que je rappelle toujours que j'ai eu la grande chance de grandir avec deux grands frères qui ont 7 ans et 9 ans de plus que moi, qui étaient vraiment mes dieux, qui faisaient du foot et du tennis tous les deux, qui avaient une patience incroyable. Ils m'emmenaient partout, ils acceptaient toujours de jouer avec moi quand ils avaient fini leur match. Et donc, c'était une époque, je vais pas faire ma vieille et dire c'était mieux avant, hein. Je sais que c'est sensible aussi ça, mais c'était quand même une époque où il y avait moins de sollicitations permanentes. C'est-à-dire que quand un enfant avait une certaine passion, et moi c'était le cas pour le tennis, il allait dans un club. Moi, j'avais la chance d'avoir... on vivait vraiment en plein centre d'une petite ville de 5000 habitants, qui était assez dynamique. Et je traversais la rue, un petit parc, à 5-6 ans. Mes parents me laissaient aller toute seule. Et puis, j'allais rejoindre mes copains. Et je passais ma journée là-bas. On connaissait la vie dans les clubs où on se consacrait à fond à ce qu'on aimait faire, quoi. Et le temps passait comme ça. Les journées, l'été, ça ressemblait à ça, quoi. Je mangeais là-bas, mes parents me voyaient pas de la journée. C'était vraiment quelque chose de fantastique. Aujourd'hui, forcément, il y a beaucoup plus de sollicitations. Donc, les enfants font beaucoup de choses différentes, sont sur tous les fronts. Et donc c'est vrai que ce rapport au temps est totalement différent. Et ça, c'est ce que je retiens beaucoup de mon enfance par rapport à tout ça, c'est d'avoir eu le temps de prendre des choses. Le sport avait une très très grande importance dans notre famille, purement dans le loisir. Mon papa était pas mal sportif aussi. Ma maman était elle était professeure de français et d'histoire. C'était une vraie intellectuelle. Elle était un peu aux antipodes de tout ça, mais avec mes frères, elle avait une dynamique. Ma petite sœur elle-même s'y est mise par la suite. Donc tout tournait beaucoup autour de ça, quoi. Et donc on passait nos week-ends à aller voir mes frères au foot. Et puis moi, je jouais au foot aussi. On allait sur les tournois de tennis. Voilà, c'était plutôt ça l'ambiance familiale. Et Justine, c'était aussi quelqu'un de très scolaire, parce que c'est vrai que j'adorais l'école. Et donc, il fallait, puis avec une maman prof, il fallait vraiment que le travail soit fait à l'école. Mais j'étais passionnée par l'école. J'aurais aussi eu envie de faire des études. J'ai choisi la voie du sport de haut niveau parce que j'avais ce rêve, mais ça m'aurait aussi plu, d'étudier. J'ai toujours aimé cette compétition, le fait de se mesurer, de s'évaluer, de progresser et d'apprendre. Ça, c'est quelque chose qui me passionnait enfant. Donc, j'ai tout de suite eu un sens de l'observation qui était très développé. C'est beaucoup en regardant les autres et en nourrissant de ce que je voyais autour de moi que j'évoluais.
Vous avez commencé à l'évoquer. Il y a eu le temps du rêve. Mm-hmm. Il est arrivé à quel âge?
Oh, très tôt, 5 ans. Entre 5 et 6 ans, je dirais. Très simplement, et en même temps, c'est difficile de dire. Pour moi, il n'y a pas eu un moment, mais c'est clair que pour moi, Roland Garros à la télévision, c'était quelque chose de le bruit de la balle, le bruit des glissades sur la terre battue, l'image, l'ambiance familiale devant Roland Garros à la télévision, c'est quelque chose qui a marqué beaucoup de gens, qui continue à marquer énormément d'étudiants aujourd'hui en période de blocus, etc. Mais moi, en tant qu'enfant, on était passionné de tennis à la maison, et donc ouais, et c'était Steffi Graf et Stéphane Edberg, quoi. Et c'est vrai que je les ai vus. Bon, on parle des années 87-88. Donc, j'ai vu Steffi Graf et Stéphane Edberg à Roland-Garros à la télévision. Ça m'a inspiré. J'allais m'enfermer dans la chambre de notre appartement familial. J'avais leur poster au-dessus de mon lit. Et puis, je jouais la finale de Roland-Garros dans le petit espace de ma chambre. Et je me jetais sur le sol de ma chambre. Je levais les bras au ciel comme si j'avais gagné Roland-Garros. Je répondais aux questions des journalistes. Et donc, c'était vraiment, j'étais en fait déjà très, très fort dans un outil que j'ai, conscientisé plus tard, qui était la visualisation, en fait. Et ça partait vraiment du rêve, quoi. Donc, c'était un rêve. C'est toute la discussion que j'ai avec pas mal de jeunes au sein de l'académie aussi. Ah, je rêve de devenir numéro un, je rêve de ceci, je rêve de cela. Mais qu'est-ce qui est vraiment au fond des tripes et qu'est-ce qu'on vit et qu'est-ce qu'on nourrit, en fait? Parce qu'un rêve, enfin, en tout cas, moi, le mien, je l'ai nourri. Tous les jours, quoi, quotidiennement, c'était je me projetais. C'était, alors ça paraît un peu dingue, hein, à 5-6 ans, c'est pas habituel. Comment peut-on savoir à 5-6 ans ce qu'on veut faire de sa vie? C'est un peu comme une vocation, comme ça, une mission. C'est presque difficilement explicable, mais ça m'a habité très très tôt, quoi. J'ai réussi à concilier l'école et ma passion et mon rêve pour le tennis longtemps. Puis après, j'ai dû faire des choix, mais j'ai consacré une très très grande partie de mon enfance et de mon adolescence et puis de ma vie future à cette passion. Pour moi, c'est devenu un métier, mais à la base, c'était taper dans la balle, c'était sentir ce besoin de précision, ce besoin de dépassement. Ces sensations physiques, ce mouvement, c'est quelque chose qui m'a nourri très très tôt.
Est-ce que ça se concrétise, ce rêve, avec des rencontres? Et là, je veux parler d'une rencontre avec Carlos Rodriguez.
Oui, bien sûr. Oui. Mais bien sûr, je porte un regard sur le passé, sur mon parcours. Je parle beaucoup de ce rêve, effectivement, de départ. Et puis, je parle énormément des rencontres aussi, parce que on est dans un sport individuel. Donc, c'est vrai que c'est une vie très difficile, parce que vous avez beau être entouré, vous êtes seul, sur le terrain à un moment pour prendre des décisions, pour avoir développé votre instinct dans ces moments-là. Mais quand même, tout ça n'arrive pas par hasard. Tout cette capacité à réagir sur le court, c'est tout un travail qui a été mis en place. Ça, c'est une partie de la chose. Et puis, c'est la confiance aussi que vous pouvez développer. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Et la rencontre avec Carlos à l'âge de 14 ans, ça a été quelque chose qui a changé énormément de choses dans ma vie en termes de confiance en moi, de conviction profonde que j'allais pouvoir y arriver. Je crois que j'avais cette conviction au fond de moi. Mais je pense que dans mon parcours, et je dis ça sans aucune amertume, je pense qu'assez peu de gens en fait y croyaient, pour beaucoup de raisons, parce que j'étais petite, j'étais plutôt frêle physiquement à l'époque en tout cas, après je travaillais très dur physiquement, mais et puis j'étais un peu fragile mentalement, il y a le décès de ma maman, donc je traversais des périodes de vie qui étaient compliquées, et ma nature profonde est une nature anxieuse, et je pense que ça probablement, pas quelqu'un qui a vraiment l'habitude de cacher vraiment qui je suis. Et donc, c'est-à-dire que cette fragilité, je pense qu'elle a été détectable très, très tôt. Mais moi, j'ai toujours essayé d'utiliser cette fragilité comme une force en me disant, mais cette fragilité, elle me permet de me remettre en question, en fait, et de douter. Et je pense que le doute fait énormément avancer. Et Carlos, lui, quand je l'ai rencontré, il m'a dit, écoute, si ton rêve, c'est de devenir numéro un mondial, moi, j'y crois avec toi et je pense qu'on peut y arriver ensemble. Et ça, ça a été un moment qui a tout changé parce que jusque-là, ma maman, tant qu'elle était encore là, les études, c'était important. Elle voulait que je me donne à fond parce qu'ils engageaient beaucoup, ils sacrifiaient quand même énormément de choses pour moi aussi. Donc, elle voulait que je le fasse bien, mais sans avoir aucune attente. Elle avait un peu peur que je sacrifie tout ça pour rien. Mon papa, je pense, aurait aimé faire du sport aussi à un certain niveau. Et donc, je crois qu'il avait envie, mais il avait un peu peur aussi pour moi. Et au fond de lui, il était tellement anxieux que je n'y arrive pas, que c'était un peu compliqué. La fédération qui y croyait à moitié, les agents, enfin beaucoup de gens. Et puis Carlos, lui, il a balayé un petit peu tout ça sans le vouloir, sans le savoir en tout cas à ce moment-là. Je pense qu'il a détecté des choses en moi et on a commencé à faire un duo incroyable. Mais ce duo est devenu incroyable parce qu'il y a une confiance voilà qui s'est installée. Et je crois qu'on voit aujourd'hui à quel point c'est difficile pour les joueuses de s'installer dans des relations de confiance avec des coachs. Et les coachs probablement sont en partie, une grande partie responsables aussi. Mais moi, j'ai eu cette chance d'avoir quelqu'un qui m'a toujours parlé vrai, voilà, de manière très, très authentique, honnête. Il avait des discours très durs et j'étais prête à les entendre. Et à partir de là, il m'a fait travailler d'une certaine manière et la confiance qu'il m'accordait me permettait de me libérer. On a traversé des moments difficiles aussi, mais ça a été vraiment un moment dans ma carrière qui a changé beaucoup de choses. Oui,
ouais, vous dites, j'ai lu une interview. Carlos adoptait parfois une attitude dictatoriale, mais j'en avais besoin. Il faisait mon éducation, devait me remettre sur le bon chemin. Mm-hmm. Carlos était un emmerdeur, un intolérant et un intransigeant. Mais je savais qu'il croyait en moi, ce qui n'était pas le cas de beaucoup de gens à l'époque, parce qu'on me trouvait trop petite, trop fragile oui. ou pas assez costaude. Comment vous pourriez décrire votre relation ?
Ah, c'est probablement que j'en aurais encore parlé différemment il y a 5 ans d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on... Voilà, Carlos passe la plupart de son temps en Chine, mais on se voit 2 à 3 fois par an et forcément notre relation a encore évolué parce que aujourd'hui on est d'adulte à adulte. J'ai ma vie de femme, ma vie de famille. Quand on s'est connus, j'avais 14 ans, donc forcément imaginez voilà toute la différence. On est presque 25 ans plus tard maintenant et donc c'est toute cette beauté aussi que j'aime quelque part regarder et analyser aujourd'hui. Notre relation à l'époque, c'est clair que quand on s'est connus, quand on a commencé à collaborer ensemble, j'ai même pas envie de dire collaborer, presque envie de dire vivre en fait, parce qu'il est la personne pendant des années à qui j'ai passé la plupart de mon temps. Je sortais une période de vie, 2 ans auparavant, ma maman était décédée, mon papa faisait tout ce qu'il pouvait pour gérer ses 4 enfants et forcément la situation n'était pas facile. Le tennis, quand on parle d'un jeune qui veut devenir un athlète de très haut niveau, dans un domaine qui est très médiatisé, où il y a pas mal d'argent, on peut imaginer aussi que pour un parent, tout ça est extrêmement compliqué à gérer. Donc voilà, j'étais dans une situation où familialement, c'était compliqué. J'étais en manque de repères. J'étais pas forcément quelqu'un de très structuré non plus, donc j'avais énormément de talent, j'étais déjà une travailleuse, mais il fallait mettre tout ça en musique et il fallait développer justement cette confiance absolue, je dirais, parce que j'avais encore mes failles, des doutes, je les ai gardés, mais cette confiance absolue, dire on sait pas jusqu'où ça va nous mener, mais en tout cas on va y aller, quoi. Et ça c'est quelque chose qu'on a vraiment entamé ensemble, mais c'est vrai que j'oublierai jamais la première tournée. On est parti ensemble pour 4 tournois. J'ai gagné championnat d'Europe moins de 14 ans. Mais ça a été presque un enfer parce qu'il était sur mon dos en permanence, quoi. J'entends des coachs dire aujourd'hui que c'est plus possible avec les jeunes de 14, 15 ans, qu'ils ont besoin de beaucoup plus d'autonomie. C'est vrai que la société change à ce niveau-là. Tout le rapport à l'éducation change énormément. Ça m'inquiète parfois un peu, mais il faut, grandir avec son temps. Mais on était, oui, dans un rapport où il me montrait le droit chemin, quoi. J'avais pas, mes raquettes étaient pas prêtes ou j'avais pas ma bouteille d'eau pour arriver à l'entraînement. Ça m'est pas arrivé souvent. Ça m'a blessée sur le coup. Il me renvoyait, j'étais à l'internat à ce moment-là au tennis études, il me renvoyait dans ma chambre, quoi. J'allais faire mes devoirs et je reviendrais le lendemain si j'étais dans de meilleures dispositions. Mais voilà, mais j'étais réceptive à ça. Il y a des jeunes à qui ça ne parle pas. Moi, j'étais quand même, je suis quelqu'un d'assez convenant. Donc ce rapport à une forme d'autorité, peut-être dans une période de ma vie où j'étais en manque de repères, était vraiment nécessaire. Oui, j'en ai besoin, je l'assume encore totalement aujourd'hui. Quand on dit, oui, mais on peut y arriver avec... quand le talent est là, on peut y arriver avec plein de personnes différentes. On peut certainement pas n'y arriver qu'avec une seule personne, mais je pense pas qu'on peut y arriver avec tout le monde non plus, parce que, en tout cas, à mes yeux, évidemment, c'est pas une vérité absolue. C'est une relation, voilà, la relation coach-joueuse, voilà, et pour moi, ou coach-joueur, quand on voit très grands champions qui restent très très longtemps avec leurs mentors et qui ont une fidélité, si on prend des Federer, des Nadal, des Djokovic, Serena aussi, d'une certaine manière, évidemment, sont quand même des gens qui ont duré, quoi, avec leur entourage. Et donc ça, je pense qu'on construit dans cette relation aussi quelque chose qui, dans les moments de doute, nous ramène, voilà, à quelque chose d'essentiel aussi, qui est l'humain. Et moi, être en phase, en tout cas en termes de valeurs, même si parfois ça a été dur, hein, je pense que c'était pas facile pour lui d'être extrêmement dur avec moi, mais il savait que j'en avais besoin à cette période-là de ma vie. Après, notre relation évidemment a évolué, il a respecté le fait que je prenne de l'âge, que j'ai mes propres nouvelles convictions, un nouveau regard sur certaines choses, mais cette relation quand même de confiance et d'écoute, elle est restée. J'ai apprécié, c'était Séverin Lutti qui disait de Roger dans une interview que je trouvais magnifique, qui disait mais là, une grande force de Roger aujourd'hui, c'est que il accepte qu'on ait encore des choses à lui dire, il est encore ouvert à ces choses-là, et je pense que ça, c'est essentiel, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre et de progresser, quoi.
Vous devez avoir affaire à ça, peut-être, avec votre académie. Je trouve que ça a un lien avec ce que vous venez de dire. Il y a des parents qui sont coachs aussi. Mm-hmm. Sûrement parce que l'enfant a besoin de se sentir bien et en confiance dans ce monde que vous décriviez, qui est pas facile. Quand est-ce que ça devient un frein?
C'est un sujet que je vais pas esquiver, mais qui est extrêmement délicat, mais dont il faut parler, je pense. Et moi, j'y suis confrontée. Enfin, j'y ai été confrontée dans ma vie, à moi, évidemment. J'ai vu beaucoup de choses sur le circuit et j'y suis confrontée aujourd'hui à travers l'académie. Je pense d'abord qu'il y a une première chose, c'est qu'il n'y a aucun parent qui est formé pour ça. Je crois que il y a probablement encore beaucoup de choses à faire pour accompagner les parents. C'est une optique que nous avons vraiment choisie, c'est au sein de l'académie. Je sais qu'il y a des académies qui sont beaucoup plus dures par rapport à ça, mais je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui, en 2020, se dire les parents à leur place. Oui, c'est un idéal, ça, évidemment. Et idéalement, il faut que chacun puisse trouver sa place dans un projet comme ça. Et on sait que c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'émotionnel. Le vrai danger, c'est quand il y a la projection, voilà, des parents. Mais il n'existe pas que dans le sport de haut niveau. Combien de jeunes font les études que leur papa ou leur maman a pu faire dans le passé pour répondre à des attentes? Je pense que ça n'existe pas que dans le sport de haut niveau. Ça, dans un monde, en tout cas, comme le tennis, ça prend des proportions énormes. Pourquoi? Parce que l'investissement financier aussi est très, très important. Et donc, je crois qu'il y a beaucoup de problématiques dans ce débat. Enfin, pas beaucoup de problématiques. Il y a des problématiques, il y a beaucoup de choses à dire dans ce débat, effectivement. Mais pour moi, le plus grand danger, c'est la projection, quoi. Une autre chose à laquelle les parents sont confrontés, pour laquelle parfois ils doivent être très présents, c'est que des Carlos Rodriguez, avec ce niveau d'engagement et d'honnêteté par rapport à leur position dans le projet, c'est pas à tous les coins de rue non plus, quoi. Et donc, je pense que trouver des coachs qui sont passionnés, qui sont là pour les bonnes raisons, qui sont prêts aussi à s'inscrire dans la durée, mais ça va dans les deux sens. Et aujourd'hui, on sent que ça devient de plus en plus dur, parce que le niveau de confiance, je pense, a baissé, mais aussi parce que les jeunes et les parents aussi ont de plus en plus de mal, mais je crois que c'est lié à la société dans laquelle on est, on parlait du temps tout à l'heure, à investir sur du long terme, quoi. Ça, c'est un grand défi. Aujourd'hui, c'est arriver à faire comprendre aux parents qu'on travaille pour le futur, on travaille avec des jeunes qui ont entre 12 et 18 ans, mais vous imaginez bien qu'entre 12 et 16 ans, on est dans une période charnière en termes de développement du jeune, et donc il y a des étapes qu'on peut pas brûler. Et on est dans un domaine qui se professionnalise davantage, de plus en plus tôt, ce qui me fait peur, personnellement, et donc je garde. Alors, il faut s'adapter, évidemment, mais d'autant plus que les carrières s'allongent, et donc il faut être prudent par rapport à ça. Et donc ça, c'est un vrai défi, et je dirais qu'il y en a beaucoup, des défis. Arriver à ce que chacun reste à sa place, collaborer, communiquer, je crois beaucoup au dialogue. Il y a des coachs avec qui vous pouvez rien faire, il y a des parents aussi avec qui vous pouvez rien faire, parce qu'ils sont sur une autre planète et qu'ils ont des attentes qui sont impossibles, parce que eux, leur enfant, c'est leur enfant. Et forcément, dans une académie, par exemple, on travaille avec beaucoup de jeunes et on a des convictions aussi. Mais je pense que tant que cette communication persiste, mais on sait que c'est le sujet le plus difficile aujourd'hui dans la formation, c'est arriver à travailler ensemble. Je dis toujours aux parents, on peut pas travailler sans vous parce que vous connaissez bien mieux votre enfant que nous. Mais je pense qu'on connaît mieux le tennis que vous. Et donc, si on arrive à accepter cette limite et à vraiment à ce que chacun connaisse son rôle au sein du projet, alors on peut obtenir certaines choses. On voit que ça fonctionne dans certaines circonstances, mais ça dépend aussi du degré de sagesse et de recul que le parent est prêt à prendre par rapport à ça. Donc, vaste débat où on voit de tout, mais je peux comprendre, je suis maman aussi maintenant, et je peux comprendre ce besoin protectionniste aussi qu'ont les parents, d'autant plus quand il y a beaucoup de sacrifices familiaux derrière, parce qu'il y a des histoires incroyables. Moi-même, mes parents, mes frères et sœurs, quelque part, ont sacrifié sans doute des choses aussi au profit de ma carrière. Donc, c'est souvent même un projet familial. Et donc, c'est des vies un peu à part, quoi. Ça, c'est clair. Alors, ça n'en fait pas quelque chose de négatif, ce que je dis là. Il y a de très belles choses à en sortir. Mais que chacun puisse trouver sa place au sein de ce projet-là est quand même... Et la pression, parfois familiale, justement, sur le jeune, elle est aussi à mesurer et à gérer pour l'enfant. Et c'est un sujet qui me passionne, où j'ai pas toutes les réponses, mais où on a en tout cas, nous, ici, cette conviction qu'on doit le faire ensemble, ça c'est sûr.
J'ai envie d'évoquer avec vous le temps de votre carrière.
Oui.
7 titres du Grand Chelem.
Mm-hmm.
Une Fed Cup, médaille d'or aux Jeux Olympiques. En termes d'émotion, mm-hmm. qu'est-ce qui a été le plus fort?
Mm. Ah, c'est toujours très difficile de comparer les moments, évidemment. Il y a des émotions différentes dans un parcours. Je dirais que la première victoire à Roland-Garros, forcément, est quelque chose de particulier, qui est même encore difficile à décrire aujourd'hui. C'est un peu ce moment où cette balle de match se joue, on est et où je gagne Roland-Garros à 21 ans. J'ai expliqué comment je rêvais dans ma chambre. J'avais fait la promesse à ma, enfin, pas la promesse à ma maman, mais j'avais eu la chance, à l'âge de 10 ans, d'aller à Roland-Garros avec elle, d'être tout près du court pour voir finalement Steffi Graf perdre contre Céleste 8-6 au troisième. Mais voilà, j'avais dit à ma maman, un jour, je serai ici sur ce court et je gagnerai, quoi. Et elle m'avait regardé un peu d'eau, comme ça, elle m'a dit, mais oui, ma puce, l'air de dire, bon, c'est bien de rêver, mais quand même, quoi. Et donc, ce moment où ça se passe, oui, forcément, il y a, une forme de connexion, en tout cas. J'ai des croyances, sont pas toujours encore très claires à tous les niveaux, mais j'ai plein de doutes à ce niveau-là. Mais là, c'est vrai qu'il y a eu, par rapport à ces moments du passé, par rapport à cet échange-là, il y a eu une connexion très très forte par rapport à ce que j'avais vécu avec ma maman là-bas. Et donc c'est une seconde comme ça, presque indescriptible. Et puis j'étais très jeune, 21 ans, c'est très très jeune en fait. Hein. Aujourd'hui, on parle de Gauff à l'âge qu'elle a. Enfin, et même à 21 ans, voilà, on n'a pas le niveau forcément. Je pense qu'il y avait déjà pas mal de maturité, mais c'est une seconde à la fois tellement brève et en même temps éternelle. Donc oui, ça, je pense, dans les émotions, c'est quelque chose d'incroyable parce que c'est un sentiment d'aboutissement très fort. Après, vous savez, la confirmation à l'US Open 2 mois plus tard, la reconfirmation à l'Australian Open dans la foulée, ça, c'est évidemment, vous dites, ok, là, j'ai envie quelque part de marquer aussi le tennis de mon empreinte, parce que il était clair que j'allais pas être quelqu'un qui allait vouloir faire un one shot, c'était pas dans mon caractère. Et puis après, voilà, on traverse des hauts et des bas dans une carrière et les émotions sont très fortes dans ces moments-là. Il y a pas que les grandes victoires d'ailleurs, il y a aussi les grandes défaites. La défaite contre Mauresmo en finale à Wimbledon ou contre Bartoli en demi-finale, en termes d'émotions, j'allais dire compliquées. Oui, c'est toujours compliqué. C'est même pas des émotions négatives, c'est des émotions qu'il faut gérer. Et sur lesquels il faut reconstruire, quoi. Et ça, j'ai trouvé ces moments aussi de vie difficiles à vivre, mais tellement salutaires aussi pour pouvoir avancer. Et puis, je suis une grande perfectionniste, et quelque part, ces imperfections pour moi aussi, pour accepter mieux les choses, étaient nécessaires dans mon parcours. Et je dirais que la victoire aux Jeux Olympiques, ça a été un autre grand, très très grand moment de ma vie. Pourquoi ? Parce que j'avais pas d'attente, je revenais d'un long virus, parce que là, on en revenait à l'amour du jeu. Je sais qu'on peut parler des Jeux Olympiques en termes d'enjeux économiques, en termes de plein de choses. Mais si on prend, moi en tout cas, l'expérience que j'ai vécue dans le village olympique, en voyant des athlètes de plein de disciplines qui sont, qui gagnent pas leur vie, quoi, à travers le sport, qui sont là pour juste leur passion, l'amour du sport, et toute cette communion. Ouais, alors bien sûr, il y a du dopage, bien sûr, il y a beaucoup d'argent, bien sûr, on peut parler de plein de choses, mais moi, ce que j'en retiens, en tout cas, c'est ce sentiment-là. C'était m'entraîner sur la piste d'athlétisme à faire des 400 mètres, forcément très très loin de l'allure des athlètes, mais avec ces athlètes qui m'encourageaient Et là, on a l'impression de mieux se comprendre, de moi qui suis dans un sport individuel, vivre cette dynamique aussi de délégation belge, ça a été un moment incroyable. Et puis, Pat Miskina en étant menée 5 en 3e, forcément, ça c'est des émotions de toute une vie. Mais je dis souvent que c'est tout le parcours que je retiens et c'est l'aventure humaine aussi, c'est un petit regard avec mes proches, c'est se prendre dans les bras à la suite d'une lourde défaite ou bien d'une magnifique victoire, c'est le partage aussi avec le public et avec mon entourage qui a été quelque chose qui aujourd'hui continue à m'accompagner. Les moments où on gagne le Grand Chelem, c'est bref, tandis que le reste, ça peut vraiment nous accompagner toute une vie, quoi.
Vous avez évoqué vos 3 premières victoires en Grand Chelem qui vous ont posé comme une joueuse qui allait durer. Ces 3 victoires, elles ont eu lieu contre Kim Clijsters.
Oui.
Et vous aviez perdu les 2 fois auparavant en Grand Chelem contre elle, en demi et en quart.
Oui.
C'était une façon de se venger.
Ouais, c'est la concurrence, la rivalité.
En fait, c'était ma question. Est-ce qu'il y a une rivalité entre vous?
Il y a eu une rivalité, évidemment. Après, il faut qu'on reprenne la définition du mot rivalité. En tout cas, le regard que moi je peux porter sur les choses aujourd'hui, d'abord de se dire que quand on était jeune, Kim et moi, parce qu'on a joué pour la première fois quand on avait 9 ans l'une contre l'autre, puis on a partagé beaucoup de moments au sein de l'équipe belge, hein, catégorie de jeunes, et ça a été des moments de vie extraordinaires. On a des caractères, à un moment donné, plus opposés, c'est difficile à trouver, quoi. Kim était déconneuse, tout ce que j'étais sérieuse, et donc, pour moi, je la regardais un peu aussi comme une extraterrestre, quoi, Kim. Et on a vécu comme ça des moments où c'est pas qu'on allait dans l'interdit, mais elle faisait les bêtises que moi j'aurais jamais pu oser faire à l'époque, quoi. Rien de bien méchant, mais des trucs de gamine, quoi. Et moi j'étais, c'est vrai, déjà un peu trop adulte probablement dans ma tête à l'époque, et donc ça a fait des moments de vie extraordinaires. Puis après on arrive petit à petit sur le circuit, et là forcément on commence à avoir les mêmes sponsors, l'histoire est parfaite, hein, une du nord, une du sud en Belgique, donc toute cette histoire se construit. Dans la presse de manière incroyable, en sachant que ça n'a jamais créé de rivalité, certainement pas au niveau politique non plus, parce que j'ai eu énormément de fans en Flandre, Kim en avait beaucoup ici, et l'histoire était incroyable, quoi, à ce niveau-là, parce que nos caractères étaient opposés. Il y avait en même temps des moments de vie, je pense, qui nous rapprochaient énormément. J'avais perdu ma maman, sa maman était malade, on est finalement nés pas très loin l'une de l'autre. On a eu des similitudes dans nos parcours, hein. J'ai travaillé très longtemps avec Carlos, elle a travaillé très très longtemps avec Karl Maas. Donc voilà, l'histoire à la fois nous éloignait très fort et nous rapprochait énormément. Et ça c'était vraiment... c'est quelque chose que je retiens. Après la concurrence est là, les entourages... Parfois polémique un peu sur certaines choses, mais objectivement, Kim et moi, il n'y a jamais eu un mot au-dessus de l'autre, on n'a jamais eu un conflit, mais il y a eu cette concurrence, quoi, saine. En tout cas, moi, c'est comme ça que je la vis. Je peux dire, affirmer aujourd'hui que j'aurais jamais été aussi bonne, une aussi bonne joueuse si Kim n'avait pas été là en même temps. Parce que forcément, étant du même pays, il faut pas se voiler la face, hein. Quand Kim a fait ses premiers résultats, ça me titillait, et je peux pas croire que ça l'a pas titillé non plus de savoir que c'est moi qui gagnais le premier Grand Chelem en tant que Belge. Je pense que tout ça, mais c'est sain, c'est pas grave, la concurrence. On est dans un métier où il y a de la compétition, hein. C'est pas le monde des bisounours où tout est beau, tout est gentil. C'est rude. La compète, il faut rester respectueux, il faut rester fair play. On traverse des hauts et des bas, mais c'est clair que ça nous a permis, chaque fois qu'elle progressait, j'avais envie de m'y mettre, et je pense que ça nous a vraiment tiré vers le haut. Nadal, Djokovic et Federer ne seraient jamais devenus aussi forts les uns sans les autres. Et donc ça, il faut se nourrir de ça, il faut prendre ça comme une chance. Et donc voilà, ça a fait des duels qui n'ont pas été les meilleurs niveaux auxquels on a été capable de jouer, ça c'est sûr, parce que la pression était toujours très très forte. Mais en fin de compte, je crois qu'on peut se retourner en disant qu'on a une rivalité qui était finalement respectueuse et saine et qui nous a aidés. Et donc moi, j'ai beaucoup de reconnaissance par rapport à ça. Oui.
On parle un peu des autres joueuses. Quelle a été la joueuse contre qui vous ressentiez le plus de problèmes?
J'ai de très mauvaises statistiques contre Venus Williams. Si on prend par rapport à Serena, où j'ai quand même des bonnes stats contre Venus, je pense que j'ai pu la battre une seule fois. Venus, oui, me posait des soucis. Je crois que c'était un peu son... une ou deux fois. Par contre, c'est une de mes plus belles victoires à l'US Open en demi-finale en 2007, où j'ai joué peut-être le meilleur tennis de ma carrière. Parce que là aussi... quand vous voulez un grand match, il faut deux filles au meilleur niveau, et c'est bien la preuve que cette concurrence, elle est importante pour faire progresser le niveau du tennis. J'étais pas à l'aise contre Sharapova non plus. Elle faisait pas partie des joueuses contre lesquelles, parce que je savais que quand elle était, comme Kim d'ailleurs, vraiment dans un bon jour, c'était mais une forme de rouleau compresseur où le rythme était tellement intense, et c'est clair que dans ces moments-là, même si j'avais énormément progressé physiquement, c'était pas toujours évident de tenir la cadence, quoi, ça c'est sûr. J'ai adoré jouer contre Jennifer Capriati parce que j'aimais sa frappe de balle. Bon, c'est un super souvenir aussi à l'US Open en 2003. J'aimais ça. Voilà, vous avez des joueuses où vous sentez la frappe de balle, même si c'était lourd, mais me posait moins de soucis. Ça, voilà, vous avez des joueuses, par contre, où c'est compliqué. Patty Schnider, par exemple, était une joueuse, gauchère avec sa bonne main, son lift, son slice de revers. Enfin, c'était un jeu qui était parfois plus difficile pour moi à maîtriser. Et puis après, vous avez les barrières psychologiques, je pense, par rapport à certaines joueuses, quoi. Alors, j'ai pas vraiment eu de filles où j'ai jamais été capable de faire la différence, mais Vénus, en tout cas, si on regarde les chiffres et les statistiques, c'est celle contre qui j'ai eu le plus de difficultés. Voilà, mais je peux pas me dire quand je montais sur le court contre une fille, j'ai aucune chance, quoi. Mais par contre, j'ai fait beaucoup de travail sur le plan mental. Pour Serena, par exemple, c'était une vraie bagarre mentale pour moi en permanence, parce que la clé, c'était de pouvoir monter sur le court pas sans avoir peur, parce que tout le monde a un peu peur en montant sur le court. Mais c'était de monter sur le court quand même en me disant je vais faire ce qu'il faut pour la bousculer maintenant, quoi. C'est moi qui vais, je vais pas subir. Ça, c'était un grand défi dans ma carrière. Je l'ai eu contre Kim aussi. Je me rappelle d'une discussion très forte avec Carlos. Je venais de perdre contre Kim au tournoi d'Anvers. Et à Dubaï, on s'est assis. Il m'a dit, mais est-ce que tu vas vouloir vivre chaque fois la même chose, c'est-à-dire subir les événements, attendre que quelque chose se passe et pas prendre tes responsabilités, quoi. C'est une discussion qui a vraiment changé dans ma tête le cours des choses. Je me suis dit, mais on va pas me donner ce que j'ai envie d'aller chercher. On va pas me le donner. Il faut que j'aille le chercher d'une manière ou d'une autre. Et là, quand vous voulez franchir des caps, vous êtes obligé d'être dans une prise de risque, quoi. Ça, c'est clair. Alors, vous travaillez pour que cette prise de risque, elle soit la plus maîtrisée possible, mais vous pouvez pas attendre que l'autre vous donne les choses. Et ça a été, pour moi, un grand défi dans ma carrière, contre Kim et contre Serena, notamment, sur le plan mental, de me persuader et de créer ce déclic qui me dit « Allez, j'y vais, je vais chercher ce match, quoi. »
Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé le 14 mai 2008 ?
Ah ben oui, quand même, ouais. Mais c'est pas un des événements finalement dans ma vie. C'est un événement qui est passé très vite. Hein. Alors oui. C'est tout. Aujourd'hui, je peux en parler différemment, même qu'il y a quelques années forcément, parce que c'est loin, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. C'est un moment qui pour moi a été relativement léger. C'est un moment que j'ai pris. C'est une décision que j'ai prise très rapidement. Alors, bien sûr que ça pose question. Et moi-même, je me la suis encore posée. Il y a pas tellement longtemps. De me dire, parce que la décision, moi, je l'ai prise à l'aéroport de Berlin. Je venais de perdre contre Safina, si je ne me trompe, à Berlin. Et on est en train d'attendre l'avion avec Carlos. Et là, les choses, on discute et tout se décide extrêmement, finalement, rapidement. Mais donc forcément, ça pose question. Quand je vois aujourd'hui, forcément, avec le recul, je vois des joueurs qui traversent des bas, parfois pendant un an, deux ans, on a vu même des grands champions traverser des blessures, des moments difficiles. Et je parle même des plus grands, hein, Nadal, Djokovic, Federer, si on les prend. Djokovic a vécu, un trou après sa victoire à Roland-Garros. Nadal, par rapport à toutes ses blessures aussi. Roger, on a dit, mais il est fini, Roger, il va plus jamais gagner un grand chelem, il va plus jamais revenir. Ces gars ont accepté ça et ont vraiment pris le temps aussi de se baser sur tout ce qu'ils avaient fait et de pouvoir revenir peut-être encore plus fort qu'avant, quoi. Ben, moi, j'en ai pas été capable, mais pour beaucoup de raisons qui sont finalement assez simples, c'est que j'étais épuisée mentalement, je pense, tout simplement. Je crois que j'ai fermé énormément de tiroirs de ma vie personnelle au profit du tennis, voilà. J'étais pas quelqu'un d'équilibré à l'époque. C'est-à-dire, j'avais totalement rangé ma vie personnelle. Je voulais pas voir mes douleurs du passé, je voulais pas voir tout ce qui avait pas été réglé, je voulais pas voir tout ce que je voulais régler pour vivre sereinement finalement à l'avenir. Et c'était très très difficile, ça m'a paru trop difficile à combiner avec le tennis, rouvrir ces tiroirs, prendre du temps pour moi pour souffler. Il faut savoir que j'ai été J'ai vécu à 3000% pour le tennis depuis mes 6 ans, quoi. Et donc j'ai été très extrême dans ma manière de vivre les choses. Il y a une autre raison aussi, c'est que mon gabarit, j'ai eu des années très très intenses où j'ai énormément travaillé physiquement avec Pat Echeverry. C'est une autre rencontre en Floride. Et quand on a pris aussi cette décision d'aller travailler avec Pat, quelque part au fond de moi, je savais aussi que j'allais un peu raccourcir ma carrière parce que c'était un travail extrêmement intense, mais je me donnais une chance d'aller chercher mes objectifs. Si j'avais continué à travailler comme je travaillais, c'est-à-dire bien, mais sans prendre ce risque supplémentaire sur le plan physique, j'aurais eu très très peu de chance de pouvoir rivaliser avec les meilleures joueuses puissantes sur le circuit. Donc on a décidé de choisir un cap à ce moment-là. Mais l'histoire montrait aussi que mon corps allait s'user plus vite, ça c'est clair, parce que voilà, le physique est ce qu'il est, le gabarit est ce qu'il est. Et donc, j'étais lucide quand même par rapport à ça. Quand j'étais plus jeune, je rêvais de jouer au moins jusqu'à 30 ans. Et puis voilà, la vie, les raisons physiques que je vous explique, et puis la vie a fait que, à ce moment-là, j'ai vraiment eu besoin de souffler. Je pensais que c'était pour toujours, parce que j'étais vraiment heureuse de tout ce que j'avais fait dans le monde du tennis. J'ai aussi, ma sœur a vécu une épreuve personnelle extrêmement compliquée 6 mois avant que je décide d'arrêter. J'étais pas là parce qu'on avait décidé que j'irais en tournoi malgré tout. J'ai gagné Masters contre Sharapova après un plus long match de ma carrière. Des émotions très fortes, mais tout ça était toujours une lutte, quoi, permanente. Et j'étais un peu fatiguée aussi de ça. Fatiguée de ne pas être plus sereine auprès de ma famille, fatiguée de ne pas pouvoir vraiment assumer toutes les épreuves personnelles que j'avais pu traverser. Et donc voilà, ouvrir les tiroirs, faire un travail sur moi. Je peux en parler très calmement aujourd'hui et avec beaucoup de sincérité, parce que je pense que les gens ont bien compris que j'ai pas toujours été, sereine. Et pour moi, pour ma vie future aujourd'hui en tant que maman, et puis pour toute ma vie de femme à venir, c'était le moment pour faire ce travail-là. Mais ça, j'en étais pas encore consciente à l'époque. Je peux en parler aujourd'hui. C'est vrai que ça a heurté beaucoup de gens. Ça a surpris beaucoup de gens parce que j'étais très jeune, parce que j'étais numéro 1 mondial. Mais moi, j'avais juste besoin de souffler. J'avais juste besoin de pouvoir me dire, je vais skier avec mes amis. Je fais d'autres choses. Je pense à moi. Je fais retomber cette pression aussi. C'était un moment qui a été très difficile à vivre. Pendant un an et demi, ça n'a pas été tout rose, mais ça a été un moment quand même vraiment déterminant dans ma vie. Ouais.
Une semaine avant votre retraite, vous disiez « Jusqu'à maintenant, je pensais qu'il fallait souffrir pour réussir. Mm-hmm. C'était ma croyance. Je ne veux plus ça, je veux trouver une sérénité, c'est mon nouveau défi. » Quand vous revenez en 2010, vous avez réglé cette question-là?
Presque. Alors, elle est pas à ce moment-là totalement réglé, parce que parfois je me dis, oh, je reviendrai jamais, sur le circuit, c'est terminé, c'est derrière moi, il y a aucun doute, tout ça est très très clair pour moi. Mais quand même, on se dit, si j'avais su tout ce que je sais aujourd'hui, à l'époque, ouais, j'aurais pu envisager certaines choses différemment, mais j'ai pas de regrets par rapport à ça, parce que la vie est un apprentissage permanent, on en apprend davantage sur soi-même, on gagne une maturité, en tout cas quand on a envie de continuer à évoluer, et c'est mon cas. Voilà, mais je me dis, quand même, si j'avais su une partie de ce que je sais aujourd'hui, à l'époque, ça aurait été quand même fantastique de pouvoir le vivre autrement. Une grande partie de ce que je dis là, oui, était réglée, donc c'est-à-dire j'ai voulu revenir sur le circuit, et je pense que je suis revenue sur le circuit dans un autre état d'esprit. Donc je voulais revenir en étant plus équilibrée, ça c'est clair. Je pense que, d'ailleurs, mon rapport avec Kim avait pas mal changé quand on s'est retrouvés sur le circuit. Premier tournoi, c'est à Brisbane, et je perds la finale contre elle, 7-6 au troisième, et je sors de ce match, et avec Carlos, on se dit, mais c'est quel match, quoi. Là, j'ai tout donné, quoi. Kim a tout donné. C'était un moment merveilleux, quoi. J'aurais pas pu le vivre, ça, dans ma première carrière. Une défaite comme ça, en ressentir ça, même Carlos, quelque part. Ressentir ça, c'est presque cette fierté d'avoir joué cette finale de cette manière-là. J'acceptais ma défaite parce que j'avais joué contre Kim qui, dans l'instant, là, à ce moment-là, avait été plus forte que moi, et j'y ai trouvé vraiment une nouvelle forme de beauté aussi dans ces moments-là. Donc, et puis je me suis quand même vite rendu compte, en jouant la finale à l'Open d'Australie, que physiquement, j'étais plus vraiment la joueuse que j'étais quand même dans ma première carrière, et que les choses allaient pas être si simples que ça. Mais je l'acceptais à ce moment-là. Je pense que je suis revenue dans cette deuxième carrière avec un super état d'esprit, avec des objectifs, avec des intentions. Je crois que quand je me blesse à Wimbledon, quand je tombe et que je me blesse au coude contre Kim en huitième, je pense réellement au fond de moi que peut-être pour la première fois, je suis peut-être partie pour gagner Wimbledon, quoi. Je le ressentais au plus profond de moi-même, quoi. Et puis, il y a cette blessure, terrible, évidemment, mais que j'ai réussi à accepter. Je me déchire ligament au niveau du coude, tendon, enfin, voilà. M'écarte des cours pendant 6 mois, j'essaye de revenir, les médecins sont assez pessimistes. Je reviens en Australie, je, voilà, redéchire tout ça, je me reblesse. Et là, les médecins, en tout cas, une grande partie des médecins me dit que c'est fini. Et là, quelque part, j'accepte et je me dis, quel message il faut voir finalement derrière tout ça. Ça, je l'ai peut-être pas encore, enfin, je me suis dit, peut-être pour la première fois, il faut pas tout essayer de comprendre. J'aime bien tout essayer de comprendre parce que j'ai ce besoin absolu. Mais parfois, en fait, voilà, il faut accepter ce qui vient, quoi. Et là, j'étais tout à fait, lucide. Mais c'est vrai que j'ai pas de regrets par rapport à cette deuxième carrière. Je suis très contente d'être revenue, d'avoir vécu le circuit d'une autre manière. Ça a été un peu trop court, forcément. Mais cette blessure, je me suis dit, voilà, quelque part, c'est qu'elle me dit quelque chose aussi, quoi. Et je suis rentrée d'Australie et mon grand-père a vécu sa fin de vie. Il est décédé 15 jours après ma retraite définitive. On a pu passer 15 jours où on a partagé beaucoup de choses. Et puis juste après son décès, je rencontrais Benoît qui est devenu mon mari, le papa de mes enfants. Peut-être que je l'aurais jamais rencontré si je m'étais pas blessée, si j'avais pas arrêté. Donc je pense que la vie envoie aussi parfois des signes et qu'il faut les accepter et que c'est comme ça, quoi. Et que ça amène sur d'autres choses. Donc en fait, j'ai aucun regret par rapport à tout ça. J'ai eu besoin d'analyser, de comprendre, évidemment, pour pouvoir avancer sereinement par rapport aux choix que j'ai pu faire, parfois qui étaient des choix très impulsifs. Je peux être dans certains pans de ma vie extrêmement impulsive et dans d'autres pans de ma vie extrêmement réfléchis, mais où c'en est maladif et où j'arrive pas à prendre des décisions. Bon, le 14 mai 2008, ça a été rapide. Quand j'ai décidé de revenir, ça a été une décision assez rapide. Et puis après, ma blessure, voilà, là, j'avais pas à choisir. Et peut-être que c'était de ça dont j'avais besoin, quoi.
Vous disiez que si vous saviez aujourd'hui ce que vous savez, vous vivriez peut-être une carrière différente ou des choses différemment. Est-ce que Kim, quand elle revient aujourd'hui, c'est ça qui l'anime?
Peut-être, c'est difficile à, on n'en a pas parlé, on sait pas, on n'a pas échangé depuis sa décision de revenir, parce que Kim et moi, aujourd'hui, si on se croise, on va certainement se croiser, à Roland-Garros, ce sera la prochaine échéance. On va avoir énormément de plaisir à se croiser. On va probablement se parler beaucoup plus de nos enfants que de tennis. Ici, en Belgique, on va pas s'appeler pour aller manger un bout, quoi. Voilà, notre relation est vraiment, respectueux. Je pense qu'on a beaucoup d'admiration l'une pour l'autre, mais on n'est pas des amis qui nous voyons régulièrement. Donc on n'a pas échangé sur cette question-là. C'est difficile. Je crois qu'il y a qu'elle finalement au fond d'elle qui sait ce qui l'anime. Moi, je porte pas de. Bien sûr que ça pose question revenir à cet âge-là avec 3 enfants. Mais qu'est-ce qu'elle a au fond d'elle? Qu'est-ce qu'on a au fond de soi-même? Enfin, tout ça se respecte, que la tâche est difficile, ou va être difficile certainement, bien que on pense quand même à des débuts plutôt prometteurs, évidemment. Je pense que Kim, c'est une fille qui a toujours eu l'amour du tennis, ça certainement, mais aussi l'amour de la vie qui tournait autour. Moi, j'aimais pas la vie de circuit. Enfin, je peux pas dire j'aimais pas la vie de circuit, mais j'attendais pas de retrouver le circuit pour retrouver les copines. J'avais voilà une ou deux filles avec qui j'étais très proche, notamment Nathalie Dechy. On avait une vraie amitié et on était vraiment heureuses de se retrouver. Mais je ne cherchais pas le circuit pour ça, toute cette vie sociale. Après, aujourd'hui, quand je revois des gens qui travaillaient sur les tournois, c'est fantastique, j'adore. Mais je ne cherchais pas à développer vraiment des relations à l'époque. Tout comme la notoriété, était quelque chose de difficile à gérer pour moi. Je l'ai accepté parce que quand on choisit une vie, on prend tout ce qui va avec. Et évidemment, j'ai joué le jeu le mieux possible. Jouer le jeu, il y a rien de malsain ou négatif quand je dis ça, mais j'ai accepté ce qui était mon métier, qui au départ était un jeu. Et puis après, il y a eu beaucoup d'enjeux, variés. Et donc, il faut accepter ces règles-là. Mais Kim, je crois, elle aimait vraiment être là, la vie de voyage et la compétition aussi. Et donc, je pense qu'il y a ça qui l'anime aujourd'hui. C'est retrouver peut-être cette adrénaline. J'imagine que c'est une partie de l'explication. Et puis, effectivement, les carrières s'allongent. Et donc, des filles ou des hommes qui ont des carrières beaucoup plus longues, ça donne des idées à certains. J'ai beaucoup d'admiration. Aux mamans qui reviennent sur le circuit, parce que je trouve que ça reste deux rôles extrêmement prenants, qui demande quand même voilà un engagement, une attention, et donc les mamans qui arrivent à combiner. Moi j'aurais pas pu le faire très sincèrement, et donc je trouve ça admirable aussi que ce message aujourd'hui passe à travers ces filles qui le font. Donc voilà, après évidemment on verra la suite.
Vous avez commencé à l'évoquer, le temps de l'équilibre de la vie de femme. Mm-hmm. C'est compatible, joueuse de tennis et vie de femme?
C'est difficile, je pense. Je reste, en tout cas, on ne peut jamais se baser que sur sa propre expérience. Je crois qu'il faut rester extrêmement ouvert. Ça a été tout un challenge pour moi, par exemple, au sein de l'académie, quoi, se détacher de sa propre expérience. C'est pour ça que je pense que quand on a été un bon joueur, on est à la mode de la consultance aujourd'hui des anciens joueurs. Oui, on peut apporter quelque chose sur du vécu, sur de l'expérience, mais je crois que le grand danger, c'est de ne pas être capable de se détacher quand même de sa propre expérience, parce qu'on est face à quelqu'un qui est totalement différent, une personnalité tout à fait différente, avec un jeu totalement différent. Et donc, il faut être capable de s'adapter et de rester ouvert. Moi, dans mon expérience personnelle, en tout cas, à l'époque, par rapport au travail que j'avais pas encore pu faire sur moi-même, il me paraissait très difficile, d'avoir un équilibre. Mais ça dépend de qui on est. Je suis quelqu'un de beaucoup moins aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis plus stable, plus équilibré, et donc j'arrive à combiner plusieurs pans de ma vie. Mais à l'époque, peut-être parce que dans le fond, ma nature finalement est plus je cherche le bon mot, mais et plus j'étais pas forcément quelqu'un dont la concentration c'était pas facile pour moi finalement d'être focalisée sur un j'étais plus dispersée à mon avis, j'étais finalement plus déstructurée quelque part en étant enfant et jeune que ce qu'on a eu l'impression que j'étais par la suite de ma carrière. Carlos m'a beaucoup aidé à ce niveau-là, et donc probablement que pour moi ça dépend toujours des objectifs qu'on se fixe et de l'ambition qu'on nourrit, évidemment. Par rapport aux objectifs qui étaient très très ambitieux, peut-être qu'il fallait justement que je me mette dans ce tunnel et que je n'en sorte pas, parce que je savais que je pouvais être quelqu'un de distraite aussi à ce niveau-là, et me laisser entraîner dans certaines distractions, combiner sa vie sociale et voilà sa vie de joueur professionnel. Sa vie de famille, c'est déjà dur, mais en plus une vie sociale avec des amis, et pour moi c'était très compliqué. J'avoue, j'ai vraiment dû... et j'ai gardé des amis qui étaient des amis à l'époque, qui ont compris que pendant des années, j'ai quasi plus existé, quoi. Ou eux n'ont quasi plus existé pour moi. C'est peut-être dur de dire ça, mais je l'assume et on en a parlé, parce qu'il fallait que je me mette dans sa bulle, dans ma bulle, parce que j'avais l'impression que cette énergie, je devais la garder au profit de mes objectifs et de ma carrière. Donc, j'étais carriériste, hein, à l'époque, ça c'est clair. Je le suis moins aujourd'hui. Le challenge a pris une nouvelle connotation, je pense, pour moi. Je crois que j'ai quand même beaucoup moins besoin de me prouver des choses, parce que je l'ai énormément fait dans ma première vie, et que je pense que la vie a aussi beaucoup d'autres choses à offrir que ça, quoi. Donc c'est sans regret sur le passé, mais pour envisager le futur, de trouver un nouvel équilibre, en tout cas dans ma vie personnelle et dans ma vie de femme, oui, c'est clair que j'ai revu cette question-là assez sérieusement. Ouais.
Vous êtes maman de Lali et Victor.
Oui.
Ils vont jouer au tennis?
Oh là là, il joue déjà un peu au tennis en fait, hein, pour être honnête, parce que ma fille m'a fait une belle surprise cette année. Elle va avoir 7 ans et ça fait bon trois ans qu'elle fait différentes activités. Son truc c'est l'équitation, mais je suis une maman à ce niveau-là pas peureuse pour beaucoup de choses, mais c'est un des rares sujets voilà qui me fait un peu peur. Donc voilà, elle essaye pas mal d'activités ces dernières années, elle est ouverte et curieuse. Cette année, elle a choisi le tennis, et donc en général le mercredi est le seul jour où je ne viens pas à l'académie, mais son groupe évidemment est le mercredi après-midi, donc je viens évidemment la regarder, mais là beaucoup plus en tant que maman qu'en tant que fondatrice de mon académie. Et c'est un pur... Lali n'a pas un sens de la balle ou un talent particulier, mais je vois qu'elle y vient avec le sourire, et je vois qu'elle en repart avec le sourire. Pour moi, en tant que maman... Comme plein de parents, j'imagine, c'est la seule chose qui compte. La seule chose qui m'importe dans leurs activités, d'abord, je pense que quand on est petit, c'est essayer pas mal de choses. Puis après, c'est essayer de persévérer quand même dans quelque chose. La seule chose que je lui demande, c'est de finir l'année, c'est d'aller au bout de son engagement, quoi. C'est pour moi la seule chose qui est importante, même dans le loisir, parce qu'à travers le sport, à travers ses engagements, c'est une valeur qui pour moi est très importante, quoi. Et donc ça, c'est la seule chose que j'exige d'elle. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'elle a très très bien compris. Pour moi, après, si elle a le sourire, c'est génial. Victor, il a même pas 3 ans, mais lui a beaucoup plus le sens de la balle. Lui, c'est le foot et le tennis. Il adore ça. Mais bon, il est encore tellement petit que voilà, on ne sait pas vers quoi ça va. Alors, est-ce que j'ai envie, parce que c'est souvent ça la question qui suit, est-ce que ça me parle? Non, j'ai aucune attente par rapport à ça, mais ni dans un sens ni dans l'autre. C'est-à-dire, je me dis pas, oh, j'ai quand même. Alors, c'est vrai quand je vois mes enfants qui tapent dans la balle et notamment, c'est vrai, Victor qui se débrouille plutôt pas mal. Je peux pas dire que je ressens pas de fierté, évidemment. Ce serait malhonnête, mais je n'ai pas, voilà, d'attente. Disant, j'espère qu'un de mes enfants va jouer quand même pour continuer quelque chose, l'aventure, ou bien pourvu que mes enfants ne jouent pas au tennis. Je suis pas du tout. Je pense que j'ai cette chance. J'ai encore la naïveté aujourd'hui de croire que je ne projette pas encore trop de choses sur mes enfants, mais là, je sais que je suis sans doute pas encore tout à fait honnête vis-à-vis de moi-même, mais je crois que j'ai eu cette chance de m'accomplir totalement dans ce que j'ai fait. Et c'est ce que je leur souhaite. Du plus profond de mon cœur, c'est de trouver, quelles que soient les voies, quelles que soient dans le sport, dans la musique, dans les études, dans leur vie sociale, voilà, de pouvoir s'engager, de pouvoir être passionné. Ça, c'est quand même ce que je leur souhaite. Alors, peut-être pas dans l'extrême déséquilibrant que moi j'ai connu, mais en tout cas qu'ils puissent trouver des voies qui les animent, quoi. Ça c'est vraiment parce que je trouve que dans une vie, la vie est assez, elle est longue mais elle est courte à la fois, et tout ce rapport au temps, il faut accepter aussi que le temps passe sans qu'il ne se passe rien d'extraordinaire. Je crois que c'est essentiel par moment, mais pouvoir sentir qu'on est animé, et être animé, ça peut être prendre un bon bouquin au coin du feu, mais avoir envie de le lire, être dedans, être vivant, quoi, finalement. C'est la seule chose que j'espère pour eux.
Après le temps de la carrière, il y a eu le temps de la reconversion. Mm-hmm. Vous avez votre académie, on en a parlé, votre fondation. Dites-nous un mot sur votre fondation. Pourquoi l'avez-vous créée?
Alors, Justine for Kids, j'ai créé en 2008. J'étais déjà impliquée dans le monde caritatif depuis 2003. Pour des raisons toutes simples, en fait. Le départ de ma maman à un âge précoce d'un cancer, ça a été forcément une épreuve de vie extrêmement difficile qui a marqué la famille, quelque part qui marque mes enfants. Aujourd'hui, tout ce qui est transgénérationnel, voilà, tout ce qui passe de génération en génération. Mes parents ont perdu leur premier enfant d'un accident. Forcément, ça a eu un impact sur nos vies, quoi. Ça, c'est clair. Ces drames familiaux et la maladie. On peut imaginer que ça a une importance majeure dans ma vie. Et j'ai toujours aimé les enfants. J'ai 5 filleuls, je m'en suis toujours beaucoup occupée depuis qu'ils sont tout petits. J'aime les enfants. Je suis parfois autoritaire, je suis plutôt ferme avec eux, mais j'aime être à leur contact, j'aime apprendre avec eux. Ça a été depuis toujours. Et donc, quand je suis devenue numéro 1 mondiale, en fait, j'étais quand même... Je parlais de la notoriété qui était compliquée pour moi. Je trouvais pas vraiment de sens, en fait, à tout ça. Et je me suis dit, il faut que je trouve un sens, quoi. Et là, m'impliquer dans le caritatif au profit des enfants malades, c'est quelque chose qui a été assez... qui s'est vite nourri, en fait, en moi. Et donc, j'ai collaboré avec une association. J'ai offert mon nom, ma présence, notamment le lendemain de ma finale contre Amélie Mauresmo à Wimbledon, ma finale perdue. Je suis partie rejoindre une vingtaine d'enfants dans la montagne en Suisse, qui étaient des enfants cancéreux. Et on a fait de la randonnée ensemble. On a vécu 3 jours ensemble à la montagne, et je peux vous dire, ma défaite s'est très très vite évanouie. Et là, j'ai eu envie de m'impliquer davantage, et j'ai créé Justine for Kids quelques années plus tard, en ouvrant aussi le cadre à d'autres maladies. Et la mission a tout de suite été très claire, c'est d'offrir un peu de répit, c'est-à-dire des moments de réconfort, des moments de légèreté à des enfants malades, porteurs de handicap, et à leur famille. La valeur de la famille par rapport à ce que moi j'avais vécu, où j'ai quand même le sentiment, quand il y a un être malade au sein d'une famille, c'est un peu toute la famille qui tombe malade finalement. Et donc la question de la fratrie, la question des parents est devenue essentielle. Et donc pendant 10 ans, on a organisé toutes sortes d'activités pour offrir des moments de bonheur, en fait, à des enfants. Ça pouvait être des activités d'un jour, ça pouvait être des voyages. On est parti en Laponie, on est parti au Canada avec des enfants, on est parti à Paris, à Disney, plusieurs fois. Enfin, on a fait énormément d'activités. Moi, j'ai organisé beaucoup d'activités sportives et récréatives avec eux ici au club, et beaucoup de moments de partage qui, l'espace d'une journée, d'une semaine, les faisaient peut-être sortir de leur quotidien. Donc, ça a été pendant 10 ans une aventure extraordinaire. Et je dis ça a été pendant 10 ans parce qu'on est un petit peu à un moment charnière où on doit prendre des décisions sur l'avenir aussi de l'association et quelle est la voilà, est-ce qu'on garde la vision qu'on avait développée, est-ce qu'on la change un peu. Un travail que j'ai entrepris maintenant, c'est depuis quelques semaines. On a un grand projet qui est sur la table depuis plusieurs années, c'est d'ouvrir une maison justement de répit pour les enfants et leurs familles, les enfants qui sortent de longues hospitalisations, pour que les enfants puissent avoir avec leurs parents un endroit où ils se retrouvent, dans une maison de vacances en fait, presque ici en Belgique, où on peut garantir les soins médicaux, et où on pourra vraiment, voilà, offrir ce moment de retrouvailles entre la famille et l'enfant. Et donc ça, c'est un projet, mais c'est un projet beaucoup plus ambitieux. Donc on est en train d'analyser dans les moindres détails pour voir si on va pouvoir pérenniser, parce qu'il y a une volonté de pouvoir forcément voir les choses sur du long terme. Donc tout ce qu'on a fait pendant 10 ans était magique. Est-ce qu'on va continuer de cette manière-là? Est-ce qu'on va ajuster un peu les choses? Est-ce qu'on va partir dans ce grand projet? Ouais, à des moments, il faut un petit peu se poser, mais avec cette envie, évidemment, de continuer à donner. Mon petit bonhomme, dans sa première année de vie, il a été hospitalisé 2 fois pour, heureusement, des choses qui n'étaient pas du tout sérieuses. Mais voilà, j'ai aussi vu des parents qui restaient à l'hôpital pour des choses bien plus importantes. Et ça a continué à nourrir mon envie. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il faut continuer à bien s'entourer, parce que je ne peux pas porter mes projets seul non plus. Et c'est toujours le défi, en fait, dans la vie. C'est les rencontres, les ressources humaines avec qui on a envie de partir dans l'aventure. Ça, finalement, je me rends compte avec le temps, je trouve que c'est la seule chose qui est déterminante, quoi. C'est comment on s'entoure dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, dans nos projets dans lesquels on veut donner du sens, trouver du sens. Et donc, au niveau de l'association, j'en suis un peu là, mais il y a beaucoup d'espoir, parce qu'on a recréé un groupe de travail pour le moment, et on réfléchit à l'avenir, et c'est une étape merveilleuse.
Un autre pan de votre conversion, c'est vous êtes consultante pour la télévision.
Oui.
Toute votre carrière, vous avez utilisé le même outil de travail, la raquette, une Wilson, je crois.
Oui, la même, oui. Même raquette, même cordage. Je suis quelqu'un de plutôt stable à ce niveau-là, je ne me pose pas trop de questions.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que votre parole, c'est votre outil de travail? Parce que là, on le sent, pareil, quand vous exprimez, c'est très important pour vous, le phrasé. C'est peut-être la fille de prof.
Bien sûr, mais j'ai toujours été passionnée par la langue française et passionnée par l'expression, qu'elle soit écrite ou orale. J'aime beaucoup lire, alors pas toujours des choses très profondes et sérieuses. J'ai besoin aussi de légèreté. Je dirais même que ma culture, je dois encore la développer à ce niveau-là. Mais j'aime les mots. Probablement que ça me vient de ma maman, certainement. Quand j'étais petite, j'avais 5 ans, elle montait des pièces de théâtre. Elle avait à cœur vraiment, notamment aussi pour donner confiance aux filles. C'était vraiment un combat aussi que ma maman menait, de pouvoir les aider à s'exprimer aussi davantage. Et avec les garçons également, monter des pièces de théâtre assez extraordinaires. Et donc, j'allais voir les répétitions, j'écoutais, et je rentrais à la maison et je déballais la pièce en entier. C'est vrai que j'ai une mémoire d'éléphant, tout mon entourage peut en témoigner. Et donc, j'ai développé peut-être beaucoup de choses avec elle à ce moment-là, finalement, sans trop m'en rendre compte. J'aime l'expression, j'aime les mots, sans trop y réfléchir. C'est vraiment quelque chose qui m'a... j'écris pas spécialement beaucoup, mais c'est vrai que voilà, je pense que ça m'est venu de ma maman très certainement, et ça me poursuit aujourd'hui. Alors dans le métier de consultante, voilà, que j'ai un peu choisi, parce que c'est vrai que ça prend un petit peu plus d'ampleur maintenant. Il y a le fait que je me sens à l'aise dans cet exercice-là, ça c'est sûr. Il y a l'aventure humaine aussi. J'ai besoin de travailler avec des équipes maintenant. J'ai beaucoup travaillé seule finalement dans ma vie, et aujourd'hui j'aime bien être entourée. J'aime continuer à apprendre, parce que je continue à apprendre aussi à travers ce métier-là, parce que la télévision est un autre métier, et donc j'ai vraiment à cœur de faire des rencontres aussi à travers ces expériences-là. Et puis c'est indéniable, garder un pied dans le monde du tennis, parce que c'est une grande partie de ma vie, parce que je pense que j'ai encore des choses à partager à ce niveau-là, et à partager et à apprendre. Je suis curieuse, là aujourd'hui j'aime retourner sur le circuit et voir comment le circuit évolue, et voir comment les jeunes travaillent différemment que nous, peut-être par le passé, et puis essayer de faire, de partager justement peut-être mes connaissances du tennis. On est toujours un peu dans la même idée du partage et de la transmission. Mais pour moi, il faut que ça fasse sens, et il faut que je sente que ça a du sens, que c'est utile, que ça a un impact, et que ce soit juste, quoi. Voilà, je pense que parler pour ne pour ne rien dire et être là pour être là, ça me ressemble pas du tout. Donc je voilà, j'essaye de le faire, de rester authentique dans l'exercice. C'est pour moi quelque chose d'important. Et puis il y a toujours ce défi, on en parlait tout à l'heure, qui est de à la fois être capable de partager son expérience, mais aussi de s'en détacher finalement pour rester dans un rôle observateur aussi et donc de parler vraiment de tennis et de ne pas ramener les choses à soi. Parce que voilà, les joueurs qui vivent ce qu'ils sont entraînés sur le terrain, ben on l'aurait peut-être pas vécu de la même manière, quoi. Et donc c'est important pour moi d'arriver à garder cette juste distance. Quoi.
Est-ce qu'il y a un confrère préféré? Je pense notamment à Fred Verdier. Vous travaillez avec lui.
J'ai beaucoup de plaisir à travailler sur France Télévisions. J'ai beaucoup de plaisir à travailler maintenant de manière très récente avec Eurosport et ça va s'accentuer aussi encore à l'avenir. Donc j'en suis ravie. D'abord parce que j'adore faire des rencontres et c'est vrai que Frédéric Verdier ça a été une rencontre assez je vais pas dire interpellante mais plus qu'intéressante voilà parce que c'est quelqu'un qui connaît énormément de choses aussi. Moi j'ai vécu un peu dans ma bulle tennistique, on parle beaucoup de tennis mais on a parlé énormément d'autres choses aussi quand vous êtes à l'autre bout du monde, voilà, forcément vous partagez des moments et ça a été une rencontre très enrichissante. Je me réjouis qu'on retravaille ensemble à l'avenir, mais avec beaucoup d'autres. J'adore commenter avec Fabien Lévesque, voilà, parce qu'il y a une très 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 chouette personne aussi derrière et puis qu'on aime parler de tennis. Je crois qu'on a une passion là aussi en commun. J'ai adoré travailler avec François Brabant par le passé, avec Lionel évidemment, voilà. Tous dans des styles différents, c'est ça qui est très chouette aussi, quoi, avec Bertrand ici en Australie, là aussi, quoi. Mais c'est toujours différent, en fait. C'est ce que j'aime aussi, et j'aime dans le duo, c'est être capable de s'ajuster, quoi, à la fois le journaliste, mais aussi le consultant, ben voilà. Et je pense qu'il y a des duos qui fonctionnent peut-être mieux que d'autres, mais finalement, quand les deux personnes sont ouvertes, ça, on arrive toujours à s'adapter un peu au style de l'autre, tout en restant soi-même. Je crois que ça, c'est une Pour moi, c'est un engagement très fort. C'est pour moi, je dois rester moi-même, quoi. C'est vrai qu'on est à une ère où il faut faire attention à tout ce qu'on dit. Hein, c'est quand même, ça pose beaucoup de questions, quoi, tout ça, parce qu'on est à une ère où, voilà, des réseaux sociaux, de la communication. Moi, je reste assez détachée par rapport à ça, et je veux pouvoir rester, voilà, authentique dans l'exercice. Après, je suis toujours quelqu'un de toute façon de prudent dans mes propos. C'est pas du calcul du tout, c'est que j'aime bien écouter, observer, je m'intéresse beaucoup à ce que les autres disent, je peux avoir des opinions tranchées, évidemment, c'est le but, hein, de pas, mais toujours de rester quand même mesuré aussi, parce qu'on ne connaît pas toujours le contexte, voilà, profond de la situation, et je reste toujours quand même assez prudent par rapport à ça.
Une dernière question. Il y a une phrase de David Foster Wallace, un écrivain, je ne sais pas si vous avez lu The Infinite Jest.
Je ne l'ai pas lu, non.
Je vous le conseille, c'est 1000 pages.
Hein. Oui.
Qui dit « Une balle de tennis est le corps ultime, parfaitement ronde, répartition égale de la masse, mais vide à l'intérieur, complètement vide, sujette aux caprices, sensible à la force, que tu l'utilises bien ou mal. Elle reflète ton propre caractère, elle n'a pas de caractère en soi, c'est du pur potentiel. » J'ai envie d'utiliser cette métaphore pour dire que est-ce que vous vous remplissez pas à votre manière, que ce soit vous avez rempli votre carrière de tennis, mais aussi maintenant votre après-carrière?
Si, je pense que à se sentir en phase et connecté à ce qu'on fait, je pense que c'est important. Par rapport à la balle, c'est intéressant. J'en ai parlé beaucoup avec une des joueuses dont je m'occupe pour le moment, une jeune joueuse, mais Carlos me disait toujours « connecte-toi à la balle, colle à la balle ». On la guide quelque part et on joue avec elle et c'est vrai que ça reste malléable et fragile en même temps tout ça et je pense que c'est la vie c'est aussi un peu comme ça quoi mais la connexion et essayer d'être juste en tout cas dans ce qu'on fait dans ce qu'on entreprend c'est quelque chose d'important sans entrer dans sans essayer d'être trop philosophe ou c'est quelque chose d'important en tout cas pour moi et c'est vrai que je dis toujours la petite balle jaune et moi c'est presque ça faisait qu'un à toute une période de ma vie en fait elle a été cette balle mon repère et presque un endroit aussi où pendant que j'étais focalisée sur elle je la regardais ben justement j'oubliais un peu les pans de ma vie qui étaient plus compliqués que j'avais pas envie de voir à l'époque et puis à un moment donné j'ai dû me libérer de ce regard là pour pouvoir régler d'autres choses et en fait Oui, bien sûr. C'est, je crois qu'il faut remplir, voilà, remplir, en tout cas vivre sa vie en essayant d'être juste. Et quand je faisais corps avec cette balle, c'était juste. Et aujourd'hui, voilà, je la tape encore un peu, hein, de temps en temps, mais j'en ai beaucoup moins besoin qu'avant parce que j'ai énormément d'autres choses à découvrir. Et beaucoup de gens me demandent, ah, tu joues encore beaucoup. Quand je tape la balle, j'ai du plaisir. Je sens que ça a été une grande partie de moi, mais je n'ai plus besoin de ça. En tout cas, cette curiosité de me dire, quand j'ai arrêté le tennis, je me suis dit, c'était une révélation. Je me dis, mais je pensais que le monde du tennis, c'était le monde, quoi. J'étais un peu, ouais, vraiment sur ma planète, hein, clairement, quoi. J'étais extrême. Je me dis, mais. Et d'ailleurs, là, je voulais tout faire, quoi. Je voulais tout voir. Je voulais voyager partout. Je voulais tout vivre. Et c'était dur aussi, ça, parce que il faut aussi accepter d'être dans l'endroit où on est là maintenant. Mais voilà, découvrir le monde autrement, en se détachant de l'image aussi qu'on a eue et qu'on a pu représenter. Voilà, c'est tout un challenge, mais voilà, la remise en question, elle est perpétuelle, mais heureusement d'ailleurs.
Merci beaucoup, Justine.
Merci, c'était un plaisir.
Quel plaisir, oui, cet échange dans la campagne bruxelloise où elle m'a reçu juste avant le confinement. Entendre l'une des plus grandes de tous les temps est un privilège. Je suis ravi de le permettre avec Échange. D'ailleurs, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Le succès de l'émission en dépend. À très bientôt pour un prochain numéro d'Échange. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.